Ce matin, vous êtes en forme? Donc, ce matin, j'aimerais vous parler un peu d'un petit débordement de cœur. Vous savez, j'ai eu la grâce de Dieu d'avoir été invité à partager à différentes conférences pour les jeunes adultes ou dans des camps. Et afin de répondre à cette demande, j'ai décidé de plonger à pieds joints dans le livre des Proverbes, de l'Ecclésiaste, du Cantique des Cantiques, et d'étudier un peu la sagesse de Dieu. Et j'ai fait plusieurs petits messages qui ont rapport avec la sagesse de Dieu, et ce matin, ce que vous avez ici, c'est un débordement de choses que j'aimerais mettre dans plusieurs différents messages, mais c'est vraiment un débordement de cœur que j'aimerais vous partager, afin qu'on puisse regarder ensemble à quel point Dieu est sage, mais aussi à quel point la sagesse de Dieu dérange le cœur humain. À quel point la sagesse de Dieu va venir gratter des questions existentielles qui sont là. Et si on aborde les questions sans Dieu au centre, sans cette réalisation que Dieu ne pense pas comme un être humain et que Dieu n'est pas dépendant de nous, mais que nous sommes dépendants de lui, on va commencer à regarder, et là, la sagesse va devenir très dérangeante. Et j'aimerais même pousser plus loin, c'est normal que ce soit dérangeant. Et on va regarder ensemble, on va prendre le taureau par les cornes, comme on dit, afin d'aller de l'avant et de s'émerveiller ensemble de la sagesse de Dieu. Premièrement, on veut être conscient que quand on regarde la sagesse de Dieu, on veut se baser sur la parole. Hein? Si vous lisez dans 2 Timothée 3:16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Donc ce matin, on va se promener dans la parole de Dieu, on va regarder plusieurs points, plusieurs éléments. Vous allez voir la quasi-totalité de mon PowerPoint. On va regarder la sagesse de Dieu en action dans sa création et on va regarder la sagesse de Dieu dans le salut des hommes. Et ces deux points-là, que vous le vouliez ou non, c'est impossible d'être neutre. Tu y crois et tu t'émerveilles, ou tu n'y crois pas et ça te dérange. Et on va regarder ensemble cette réalité-là. Premièrement, on va regarder ensemble comment la sagesse de Dieu appliquée dans nos vies est présente. OK? Donc, la sagesse de Dieu nous est présentée comme l'idée d'une perfection, d'une complexité, d'un atout spécifique et utile dans l'épreuve ou dans la confection et la création de quelque chose. Donc, si vous tournez dans Exode 35, versets 30 à 34, la parole de Dieu nous dit que Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, et il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, le gravier, les pierres, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'or. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, etc., etc. » Donc, ce que je voulais faire ressortir ici, c'est que la sagesse de Dieu appliquée, Dieu s'en sert, Dieu donne cette sagesse-là à tous ceux et celles qu'il va envoyer, qu'il va équiper et qu'il va préparer. Et ça, c'est le côté vraiment pratico-pratique que Dieu qualifie celui qu'il envoie dans son travail, dans son œuvre ou dans sa moisson. Et il les qualifie non pas par leur mérite, mais bien par son esprit. Donc, Dieu partage sa sagesse en donnant son Esprit Saint à ceux qui l'envoient. Et dans la parole de Dieu, ce qu'on va regarder ensemble ce matin un peu plus, c'est la réalisation que la sagesse de Dieu, elle est présente dans toute chose. La sagesse de Dieu est non seulement applicable, mais c'est un attribut de Dieu. C'est une partie indissociable de son être. Et c'est la sagesse qui vient signer toutes les œuvres de la création de Dieu. Qu'on parle de la création de l'univers, de la conscience de l'homme, de la complexité de qui nous sommes et, bien entendu, de notre salut en Jésus. On va regarder aussi à quel point la rédemption qu'on trouve en Christ, en Jésus, est sage et exceptionnelle. La rédemption, c'est le fruit de la sagesse de Dieu envers sa création. Et on va regarder comment la sagesse de Dieu était à l'œuvre dans le jardin, quand l'arbre de la connaissance du bien et du mal fut introduit. Comment la sagesse de Dieu était à l'œuvre dans la création de Satan. Comment la sagesse de Dieu était à l'œuvre quand Dieu a établi Israël et la lignée messianique. Comment aussi, dans le temps convenu, Dieu, dans sa sagesse, nous a envoyé Jésus, qui était la personnification parfaite de la sagesse de Dieu. Et on va voir aussi comment le plan merveilleux et infiniment sage de Dieu de crucifier Jésus pour notre salut est une sagesse profonde. Et juste à dire ça, ça devrait normalement nous déranger. Le verset thème de ce matin se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21. Qui nous dit ceci, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Au verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc ce matin, on va regarder ensemble comment, je vais vous amener avec moi dans un petit voyage. On va regarder comment la sagesse de Dieu, en action dans sa création, soutient et a fondé le monde. Donc je vais vous en rafale quelques versets. Si vous allez dans Jérémie 10, 12, il nous dit... Dieu, il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Proverbe 3:19 nous dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Dans Ésaïe, au chapitre 45, verset 12, il nous dit, c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toutes leurs armées. On voit aussi dans Colossiens chapitre 1, qui nous dit, car en lui, en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et finalement, dans Hébreux, chapitre 1, verset 2, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, ce matin, j'aimerais vous partager un peu cette réalité, que c'est dans une sagesse infinie que Dieu a créé le monde. C'est dans une sagesse infinie que Jésus a créé le monde. Et si vous allez et vous prenez le temps de lire, parfois il y a certaines ambiguïtés ce matin que on n'a peut-être pas beaucoup de temps pour en parler, mais simplement dire que Dieu a créé toute chose par sa sagesse, par Christ, par Dieu, par sa puissance. Et quand vous prenez le temps de lire dans les Proverbes, au chapitre 8, on nous donne une personnification de la sagesse. Comme si la sagesse était quelqu'un et qu'elle appelait les gens, qu'elle appelait chacun d'entre nous à nous détourner de nos chemins tortueux et à regarder à Dieu et à sa sagesse. Donc, si vous tournez dans le Proverbe au chapitre 8, il va nous parler vraiment, la sagesse crie dans les rues, elle appelle, elle dit à l'insensé, « Entre dans ma maison, viens et mange de mon pain, bois mon vin mêlé, afin d'acquérir la sagesse. Assieds-toi, je t'enseignerai. » Et au milieu du chapitre, il commence à exprimer une réalité comme quoi, c'est une image poétique qui dit, Dieu dit, j'ai créé la sagesse. La sagesse fut ma première création. Dieu en parle comme étant, en fait, l'auteur de Proverbes en parle comme étant une création. Et il y a certains cultes qui prennent ce verset avec Colossiens 1:15 pour dire que Jésus aurait été la première création et non Dieu d'éternité. C'est un point qui est, j'aimerais vous dire, relativement simple à défendre, mais qui peut amener plusieurs personnes à se questionner, est-ce que Jésus est Dieu? Et poser la question, c'est réaliser qu'on a une certaine incompréhension face aux sujets qui sont abordés ici. Et premièrement, je vais répondre à ce point très rapidement parce que vous allez voir dans Proverbe 8, il y a plusieurs belles choses qui sont décrites de la création de Dieu et de la sagesse de Dieu dans sa création. Et on va prendre le temps d'en regarder quelques-unes, mais on veut spécifiquement souligner ici que c'est premièrement un texte qui est poétique. Donc, que la sagesse soit la première création de Dieu, on est dans un mode poétique. Et on doit réaliser, premièrement, que si la sagesse de Dieu est un attribut de Dieu, les attributs de Dieu sont-ils temporels ou éternels? Ils sont éternels, sans commencement, sans début. Nous, on pense en début, on pense en création, on parle en ordre de temps. Mais Dieu, lui, ne pense pas comme nous. Dieu est éternel. Donc, il n'y a pas de début, il n'y a pas de commencement. Et donc, quand Dieu parle que la sagesse est sa première création, il utilise un langage poétique afin de la mettre au premier rang. Donc, dans notre humanité, quand on lit, on doit réaliser que la sagesse de Dieu, elle transcende toute chose. Elle est plus grande et donc plus efficace, comme tous les attributs de Dieu, que tout ce dont on peut voir. Et elle va être présente dans chacune des actions de Dieu. Il n'y a pas une action de Dieu qui est faite sans la sagesse. Okay? Donc, si Dieu, à un certain moment, crée la sagesse, bien, il l'a faite avec la sagesse. Ce qui fait que là, notre cerveau, il ne comprend pas grand-chose. Hein? La sagesse de Dieu a été créée dans la sagesse de Dieu. Puis là, on dit merci Seigneur pour cette vérité. Et on peut regarder et réaliser à quel point on réfléchit en être humain avec un verset comme ça. Et on veut aussi apporter, les gens le lient souvent ce verset-là à, comme je vous ai parlé, dans Colossiens au chapitre 1, verset 15, qui nous dit que Christ est le premier-né de toute la création. Et là, on en a parlé déjà ici, mais quand on a le terme premier-né, nous, on pense à j'ai mon premier, j'ai mon deuxième, j'ai mon troisième, et là, le premier, bien, c'est le premier. Hein? Mais dans la parole de Dieu, c'est pas comme ça. Quand on parle de premier-né, et je le passe rapidement, on sait qu'on parle de celui qui est l'héritier, celui qui est mis à la place d'honneur. Et si je vous pose la question, lequel des fils d'Israël ou de Jacob était le premier-né? Là, ceux qui sont rapides vont peut-être me dire, ben, son premier, son plus vieux, c'est Ruben. Hein? Mais là, si on regarde les honneurs qui sont dus au premier-né, on réalise rapidement que le premier-né de Jacob, c'était Joseph. Et si vous allez dans Genèse, à partir du verset 30, du chapitre 36 jusqu'à la fin, vous allez voir un peu cette guerre de frères, de premier-nés, de jalousie, de finalement le premier-né s'est fait vendre par ses frères, etc., etc. Donc, quand on parle de premier-né dans la parole de Dieu, on parle vraiment de celui qui est mis à la position d'honneur et celui qui représente son père dans les affaires du monde. Donc, si je suis le premier-né, je peux aller faire du troc au nom de mon père. Et on voit un peu cette réalité-là qui nous dit dans le psaume 89, 27, et il est en train, dans un psaume qui nous parle du Sauveur, et l'Éternel nous dit, « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Donc, le premier-né, c'est vraiment un terme qui est donné par un père à la personne numéro un qui devrait le représenter. La personne la plus importante de la famille après le père, c'est le premier-né. Et c'est là qu'on a Jésus. Et même, Jésus va plus loin, Jésus est Dieu. Ils sont égaux, mais chacun dans leur rôle. Et Jésus, son rôle, c'est d'être le représentant ou le premier-né avec nous. OK? Mais en même temps, quand on va dans Jean au chapitre 1, on voit que Jésus est la parole de Dieu ou la sagesse faite chair. Donc, dans la création de Dieu, on a vraiment cette réalité-là qu'un jour, la chair, la sagesse de Dieu s'est personnifiée. Dieu a répondu à une certaine demande humaine de dire, si tu existes, ben viens donc sur terre. C'est fait. Vous préparez la boîte, là, puis check. Jésus est la sagesse de Dieu personnifiée, la parole de Dieu faite chair, qui nous montre le cœur de Dieu, qui nous montre l'amour de Dieu qui est parfait, il est sans tache, il transcende l'intelligence humaine. Et ça devrait nous émerveiller. Je ne sais pas si ça vous émerveille, je ne sais pas si ça t'émerveille personnellement aujourd'hui, mais moi, quand j'ai pu lire ces choses-là, ça m'a fait du bien dans mon âme de pouvoir réaliser que, vous savez ce qu'on entend parfois, si Dieu existe, il y a juste à se montrer. Ça m'a fait du bien en mon dedans. De savoir que c'est fait et j'en ai le témoignage vivant. On peut aussi regarder comment dans la création, oui, la sagesse s'est faite chair et on va en parler, mais aussi on voit comment à chaque fois qu'on a une nouvelle poussée technologique, que ce soit un nouveau microscope ou un nouveau télescope, les scientifiques, chrétiens ou non, sont émerveillés de l'univers. On découvre des nouvelles étoiles, des nouvelles galaxies, des nouvelles planètes à tous les jours, ou presque. Dès qu'il y a une nouvelle technologie, on rajoute une lentille au télescope, on fait quelque chose de nouveau et réalise des choses. Et sachez que la sagesse de Dieu vient tisser toutes ces réalités-là. Dieu nous dit qu'il a étendu lui-même les cieux, il a placé l'armée des cieux, un beau terme pour dire les étoiles. Dieu les a placées, il connaît leur nom, et c'est lui aussi qui dirige les différentes étoiles, c'est lui qui place les étoiles pour les bateaux. Et quand vous commencez à étudier comment les gens pouvaient naviguer les mers en sachant que les étoiles allaient toujours être à la même place, selon le temps de l'année, selon où ils étaient à peu près sur la planète, selon le nord du monde, le nord de la Terre, on s'émerveille. Ce sont des lois de Dieu écrites dans la création qui ont autant d'impact que la loi écrite dans la parole de Dieu. Elles nous révèlent la puissance de Dieu. Et on peut regarder rapidement toutes les lois naturelles qui régissent le monde, que ce soit la gravité, toutes les lois de la physique. Vous savez que pour que le Big Bang fonctionne, les scientifiques ont réalisé que ça prenait 37 calculs mathématiques là, qui sont constants. Ça prenait, puis là, mon chiffre est peut-être plus exact parce que mes datas datent d'il y a quelques années, mais il y a quelques années, les scientifiques ont réalisé que ça prenait au-delà de 37 constantes calculable et vérifiable pour que le Big Bang arrive. Et le Big Bang serait le fruit du hasard. Mais là, on pousse plus loin. Si vous êtes un peu scientifique, vous pouvez aller demander à des gens qui sont plus intelligents que moi. On part, ils partent maintenant pour nier l'existence de Dieu. Ils créent une quatrième dimension où il doit avoir quelque chose d'autre parce que le chaos ne crée jamais l'ordre. Et nous, on sait que Dieu est un Dieu d'ordre et que toutes les lois de la nature et les lois spirituelles sont fondées par notre Dieu, par sa sagesse. Et là, la parole de Dieu nous dit dans Romains, au chapitre 1, « Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant vu Dieu dans sa création, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, mais ils se sont tournés vers des fables. » Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Tout ce que Dieu a fait, vous savez, je vais utiliser un terme, soyez pas choqués, Dieu est show-off. Saviez-vous ça? Je ne sais pas si pour vous c'est un terme qui est négatif, mais quelqu'un qui est show-off, c'est quelqu'un qui aime montrer ce qu'il a, hein? Qui aime montrer ses possessions ou son intelligence ou ce qu'il est. Et Dieu est show-off. Il aime montrer son amour, sa puissance, sa gloire. Il aime nous montrer qu'il est Dieu. Il aime nous montrer qu'on est dépendant de lui. Dieu aime quand on le voit dans notre limite humaine, comme il est vraiment. Ce qui veut dire infini, glorieux, trois fois saint, l'ultime réponse aux besoins de mon cœur. Dieu aime nous montrer son amour, sa grâce et sa grandeur. Et il ne se lasse jamais comme un enfant de 3 ans va poser plein de questions qu'on n'a pas toujours les réponses, mais Dieu a les réponses. Et sa réponse ne sera jamais parce que. Il va toujours avoir une réponse, il va toujours apprécier nous parler et nous montrer qui il est. Et donc, la sagesse de Dieu, visible dans le monde, invisible parfois pour certains d'entre nous, mais plus on creuse, plus on peut la voir, nous oblige à réaliser qu'il y a quelque chose. Il y a une quête des plus nobles à chercher à comprendre pourquoi on vit, qu'est-ce qu'on a de spécial, pourquoi est-ce que les êtres humains, on est sur la terre pour la gérer du mieux qu'on peut. On n'est pas super bon, là, mais il y a plusieurs façons de voir le monde, plusieurs façons de voir l'au-delà, plusieurs façons de voir Dieu. J'aimerais spécialement ce matin faire un topo rapide, simplement pour annoncer une réalité. Dieu n'est pas un homme, pour réfléchir comme un homme. Et donc, premièrement, on va regarder ensemble, Dieu est esprit. Si vous allez dans Jean chapitre 4, verset 24, quand Jésus parle avec la Samaritaine, et la Samaritaine lui demande simplement, « Où est-ce que tu vas adorer? Est-ce que c'est sur cette montagne-là ou cette montagne-là? Ah, Jésus, toi, tu vas adorer où? Est-ce que c'est à Jérusalem? Est-ce que c'est sur cette... » Et Jésus lui répond, « Notre Père est esprit. » Et donc, il veut des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, je ne sens pas ça de nulle part. Dieu est esprit. Êtes-vous surpris? J'espère que non. Mais Dieu est un esprit, donc on ne peut pas le voir. Et même, ça pousse plus loin dans la parole de Dieu, il y a plusieurs endroits où des hommes ont demandé à Dieu, « Montre-nous ta gloire, montre-toi, on veut te voir. » Et qu'est-ce que Dieu répond? « L'homme ne peut me voir et vivre. » Parce que Dieu est trois fois saint, parce que probablement là, que ce serait juste, tu sais, mourir d'émerveillement. Ce serait une belle façon de mourir. Tu vois Dieu, tu fais comme... C'est mon rêve. Pas que je rêve à la mort, là, mais quand on réfléchit à toutes les façons, tout ce qui peut arriver, c'est quand même un beau clin d'œil. Mais Dieu est esprit. Donc, Dieu n'est pas humain, Dieu n'est pas physique. Et un autre point, c'est Dieu n'est pas simplement une force. Il y a plusieurs versets et j'en ai pas sorti plusieurs, mais Dieu est quelqu'un qui est intéressé à nous. Dieu s'intéresse à l'humanité, il est impliqué dans nos vies. C'est un Dieu qui est personnel. C'est un Dieu qui écoute chacune de nos prières. Donc, quand tu viens avec tes fardeaux, tes péchés, tu sais que Dieu est là. Tu peux savoir avec certitude que Dieu t'écoute parce que Dieu n'est pas une force cosmique à laquelle tu dois t'accorder pour vibrer de la même façon afin de pouvoir bénéficier de sa bénédiction. Non. Non. Dieu n'est pas seulement une énergie que tu dois apprendre à canaliser dans ta vie pour vivre ta meilleure vie maintenant. Hein? Live your best life now. Dieu n'est pas un agent que tu dois canaliser pour réussir dans tes finances. Non. Dieu n'est pas une énergie cosmique qui a créé le monde et qui l'a oublié. Non. La parole de Dieu nous dit et nous le montre à plusieurs reprises que Dieu s'implique dans chacune de nos vies. Et Dieu s'intéresse à nous et Dieu travaille dans sa création et dans notre salut afin qu'on puisse le connaître. On peut communiquer avec Dieu d'une façon claire et honnête. On peut voir dans sa parole qu'est-ce qu'il s'attend de nous. Et honnêtement, la sagesse de Dieu dans notre salut, on va la regarder ensemble, mais souvent quand on essaie de résumer l'Évangile, on résume l'Évangile de la façon suivante. On a été créé par Dieu, qui lui est parfait. Et il nous a appelés, il a mis l'homme dans un jardin, il l'a appelé à vivre en communion avec lui, à être éternellement heureux et en communion. Malheureusement, on s'est rebellé et on a choisi de pécher, de suivre nos propres penchants. Voulant nous faire égal à Dieu, on a introduit le péché et on est tombé. Le péché règne maintenant dans nos vies. Mais Dieu, dans son amour, nous a envoyé son Fils Jésus afin de payer la dette qui était la nôtre, payer le prix pour le péché et rétablir la communion, enlever nos péchés, vaincre la mort, mourir à la croix, ressusciter après 3 jours. Et c'est par son sacrifice complet que nous avons une pleine réconciliation avec Dieu, le pardon de nos péchés, la paix disponible. Et Dieu, Jésus, scelle cette vérité-là par son Esprit Saint dans nos vies et nous permet de grandir, de vivre pour lui, de faire des bonnes œuvres pour lui à cause de son salut. Et c'est comme ça qu'on va souvent résumer rapidement l'Évangile. Jésus est mort pour nos péchés, ressuscité pour nous donner la vie. Repentez-vous. Et dans la sagesse de Dieu, on peut le croire. Mais savez-vous que croire ça, là, humainement, c'est fou. Et ça dérange. Allez voir les non-croyants et dites-leur que vous êtes chrétien. Et vous n'aurez jamais la même réaction. Aujourd'hui, on vit dans un monde plus passif. Hein? C'est comme, ah, cool, si ça te fait du bien. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'était plus facile avant d'être chrétien. Je ne sais pas pour vous, mais tu ne te bats pas avec ta conscience à tous les jours quand tu n'es pas chrétien. Hein? Et on vit dans un monde qui vient, et là, je vais sortir un gros mot, je suis désolé. On vit dans un monde qui fait un syncrétisme. Vous savez ce que ça veut dire? Je le dis souvent, fait qu'un moment donné, vous allez le connaître. Mais c'est quand on prend un petit peu de toutes les religions du monde, et là, on les met ensemble pour s'en créer une. Et à quelque part là-dedans, les gens vont être très contents de mettre Jésus. Je peux vous partager quelque chose. Hier, j'ai été à un mariage et on était dans l'église catholique au centre-ville. La grosse cathédrale, c'était super beau. Et là, il y avait des vitraux. Et si vous allez là-bas, vous pouvez regarder les vitraux. Et dans certains vitrails, il y avait des choses qui sont apportée pour, normalement, Jésus, qui était comme donné à Marie, comme Jésus était la porte du ciel. J'étais là, hein? Et là, j'en ai vu plusieurs comme ça. Puis là, mon fils, qui a à peine 12 ans, il me disait, « Papa, ça n'a pas d'allure. » Ben, pourquoi? Et là, il me disait, « Ils lisent pas leur Bible. » Mais pourquoi? Ben, voyons, c'est pas Marie la porte du ciel. C'est pas... Et là, j'ai dit, « Ah, merci Seigneur. Mon gars, il voit des choses. » Et c'est pas à cause que j'ai enseigné d'une façon exceptionnelle, mais il a allumé sur des choses parce qu'il dit, et sa question, ça, voyons, ils lisent pas leur Bible, papa. Je dis, ben, je sais pas. Et dans le syncrétisme, vous savez, j'ai lu un pamphlet parce qu'un jour, mon gars est parti, puis là, il était rendu dans les appartements privés du prêtre, là, puis il est allé aux toilettes parce qu'il cherchait une toilette. Et là, je l'ai trouvé, je l'ai comme suivi. Et là, j'ai attendu qu'il finisse. Et là, en attendant qu'il finisse, j'ai pris un des pamphlets. Et Jésus était présenté comme l'exemple parfait d'amour, l'exemple parfait du sacrifice. Il était représenté comme l'exemple ultime. Et il n'y avait aucune mention de son sacrifice pour payer le prix de nos péchés. Aucune. Mais c'était-tu pas beau? Tout ce que Jésus nous enseignait sur l'amour de son prochain. Et les gens sont prêts à accepter un Jésus qui est un prophète et qui nous montre comment vivre une belle vie. Et qui nous appelle à faire des bonnes œuvres. Et partout dans le monde, il y a des gens qui suivent cette réalité-là, qui veulent être comme Jésus. Et il y avait plusieurs endroits où c'était super. Là. Soyez comme Jésus, aimez votre prochain, soyez comme Jésus. Mais il n'y avait pas de mention de son salut. Et ça a comme poussé un peu ma réflexion de ce matin. Je n'ai pas changé le message, mais on a besoin de réaliser à quel point l'incarnation de Jésus, de Dieu fait chair, est la seule base par laquelle on a accès à Dieu. Réalisez-vous que si ce n'était pas du fait que Dieu a lui-même décidé de faire le pas, on serait tous encore dans nos péchés. Et il n'y a rien dans ce monde qui pourrait nous sauver. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et j'aimerais vous amener dans cette sagesse du salut qui peut déranger. Parce que là, ça dérange déjà. Hein, vous savez que si vous avez un chandail qui dit « Je suis sauvé par grâce, par la foi seul, en Jésus seul », il y a certains pays où vous pouvez vous ramasser en prison. Donc, juste ça, ça dérange. Mais on va aller plus loin. J'aimerais vous apporter, ensemble, on va regarder certains points. La sagesse de Dieu dans le salut des hommes. Si vous avez une Bible, vous pouvez tourner dans Genèse 3 et lire l'histoire d'Adam et Ève. Dans la création, on voit la puissance et la sagesse de Dieu. Et il y a une des créations de Dieu qui est unique, qui a une caractéristique qu'aucune autre a. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Réalises-tu que tu es un reflet de l'image de Dieu? Ta valeur n'est pas dans tes actions, dans ton compte en banque, dans ta job, dans ton intelligence. Ta valeur n'est pas dans ta stupidité ou dans ta capacité à chauffer manuel. Non. Ta valeur est dans le fait que tu es une représentation vivante de l'image de Dieu. Ça vient donner, ça vient égaliser tout le monde. On est tous sous la même réalité. On est tous créés à l'image de Dieu. Et Dieu nous forme dans le sein maternel afin d'être une image de Dieu. Que ce soit un peu déformé, que ce soit avec un QI énorme ou tout petit, peu importe, Dieu amène chaque être humain à lui ressembler. C'est ce qui nous donne une valeur. On représente l'image de Dieu. Et quand on regarde cette vérité-là, si vous tournez au chapitre 3 de Genèse, et là, vous voyez cette chose suivante, relisons les paroles. Satan a tenté Ève en lui disant, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » J'aimerais vous demander une chose. Si Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu, et je vous le dis, dans la Bible, c'est pas écrit, les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Peut-être que ça va vous choquer aujourd'hui, en ce moment. Mais dans la parole de Dieu, ce n'est pas écrit que les anges sont créés à l'image de Dieu. Seulement l'homme. Donc, si on réalise cette chose-là, on tombe devant une ironie exceptionnelle que Satan a vendu une idée à Ève qu'elle possédait déjà. Tu seras comme Dieu, semblable à Dieu. Quatre versets avant, c'est écrit « Faisons l'homme à notre image, qui nous ressemble. » J'ai, et j'aurais fait pareil, l'homme, la femme, l'humain tombe parce qu'il ne voit pas les choses comme Dieu. On ne comprend pas la valeur unique de chacun d'entre nous. On ne comprend pas que nous sommes le reflet de Dieu. Et ça peut prendre plusieurs formes. Il y a des gens qui se questionnent, est-ce que c'est le fait que l'homme, on crée des choses? Est-ce que c'est la conscience qui fait qu'on est semblable à Dieu? Est-ce que c'est le fait qu'on peut faire des choix? J'aimerais vous dire, on est semblable à l'image de Dieu parce que Dieu l'a décrété. C'est la parole de Dieu qui donne l'autorité à ce que je viens de vous dire. Et l'ironie, c'est qu'on est tous tombés dans le péché parce que le père de l'homme, Adam et Ève, ont voulu être comme Dieu, ce qu'ils avaient déjà. Et là, Satan leur a vendu une idée, vous connaîtrez le bien et le mal. Vous serez capable de faire la différence. J'aimerais vous dire une autre chose. Ils le savaient, ce qui était bien et mal. Qu'est-ce qui était bien? Vis dans le monde, cultive-le, prends-en soin et réjouis-toi. Qu'est-ce qui était mal? Ne mange pas du fruit de l'arbre défendu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé du fruit de l'arbre défendu. Pourquoi? Parce que l'homme est pécheur. Dans sa sagesse, Dieu le savait. Et j'aimerais, pour terminer le point, simplement dire, dans cette chute de l'humanité, premièrement, j'aimerais vous dire, si vous allez dans 1 Corinthiens 6, 3, qui vient placer l'homme au-dessus des anges, Paul dit, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. » Donc, ultimement, dans notre vie, les chrétiens, les humains, les hommes qui ont donné leur foi en Jésus, en Dieu, vont juger les actions secrètes qui se font. Et donc, on vit dans un monde qui déteste les chrétiens. Savez-vous pourquoi les chrétiens sont plus persécutés que tout le reste des autres religions ever, never, ever? C'est à cause du nom de Jésus. Et c'est aussi parce que, à travers Jésus, on rétablit cette connexion avec Dieu et on rappelle à Satan, chaque croyant rappelle à Satan qu'il n'est pas à l'image de Dieu et qu'il ne sera jamais Dieu et qu'il est déjà vaincu à la croix par Christ. Par votre vie, par votre confession de foi, vous reflétez Dieu. Vous avez une valeur infinie. Réalisez-vous la chose? À quel point Satan peut normalement nous détester? À chaque fois que vous commencez à prier, que vous vous approchez de Dieu avec une pleine assurance que vous êtes pardonné par l'œuvre de Christ, vous lui rappelez que lui n'est pas à l'image de Dieu. Vous lui rappelez qu'il est pas mal bas comparé à Dieu. Donc, ne soyons pas surpris des tribulations. Il n'y a aucune autre religion, confession qui fait autant de dommages à l'ennemi. Soyons des soldats. Et ça, ça dérange. On va regarder un peu plus loin. Quand on regarde dans l'Évangile, qu'est-ce qui est arrivé après la chute? C'est écrit que Dieu a dit, ne laissons pas l'homme manger du fruit de l'arbre de la vie. Dieu a chassé l'homme. Pourquoi? Afin qu'il ne vive pas éternellement. Dans sa sagesse, Dieu a décrété que l'homme devait mourir. Réalisez-vous? C'est une grâce de Dieu. Là, vous me regardez toutes. De quoi tu parles? J'ai une réponse simple. Pourquoi la mort est une grâce de Dieu? Pourquoi la mort est la sagesse de Dieu? Parce que s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de Jésus. S'il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de salut. S'il n'y a pas de Jésus qui est mort sur la croix, on est tous dans nos péchés. La mort est donc la sagesse de Dieu pour l'homme. Encore plus loin. Parfois, on se pose la question. Pourquoi Dieu a mis l'arbre dans le jardin? Me semble que moi, je ne l'aurais pas mis. Hein, non, mais pour vrai, on est tous, moi, vous savez, on est tous un peu orgueilleux, puis on se dit, moi, j'aurais pas fait ça. J'aurais pas fait ça de même. Mais j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, dans toute la création de Dieu, et là, vous pouvez aller aussi loin que vous voulez et aussi profond que vous voulez, j'aimerais vous poser la question suivante et y répondre, bien entendu. Qui peut être sauvé? Dans toute la création de Dieu, qui a accès au salut? L'homme, l'humanité est la seule création de Dieu qui a accès au salut. Et donc, dans sa sagesse, Dieu, vous savez, Dieu ne crée jamais rien pour rien. Que vous ne soyez pas au courant, là. Dieu est show-off, il crée des choses pour nous montrer des parcelles de lui-même. Et l'homme est créé à l'image de Dieu. Et une chose que seulement l'homme peut refléter de Dieu, que seulement nous, par le salut disponible en Jésus, on reflète le pardon de Dieu. Vous savez, les anges regardent l'Évangile et ne comprennent rien. Et pas qu'ils sont stupides, c'est que c'est insensé. C'est le pardon du Dieu trois fois saint éternel qui a une créature qui le déteste, une créature qui veut prendre sa place, qui le minimise, qui l'accuse de plein de choses, qui vient vraiment à être des créatures exécrables. Ce sont nous, avec nos péchés et notre orgueil. Et Dieu nous pardonne. Encore plus, Dieu prouve son amour que pendant qu'on est en train de le détester, puis de se battre contre lui, puis de donner des coups de pied comme un enfant qui fait une crise, Dieu vient quand même nous sauver. Il n'y a aucune autre création de Dieu qui a accès à un pardon comme ça. Nous sommes le reflet de l'amour de Dieu, de son pardon, de sa grâce, de tout ce qui est salutaire pour nos âmes. Et on est appelé à vivre en toute connaissance de cause. En tant que croyant, vous reflétez l'amour, la grâce et le pardon de Dieu. Et on doit vivre conséquemment à ça. Encore plus, ce n'est pas par nos œuvres. Vous allez dans Éphésiens 2, 8 et 9. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça veut dire quoi, la foi? La foi commence par réaliser qui est Dieu. Se faire une image véridique et véritable de Dieu selon sa parole. Oui, Dieu condamne le péché. Dieu condamne aussi le pécheur. On aime la phrase « Dieu condamne le péché, mais pas le pécheur ». On l'aime, pour vrai, là. J'aimerais qu'elle soit vraie. J'aimerais qu'elle soit vraie. Mais celui qui s'accroche à son péché meurt dans son péché. Il n'y a aucune dissociation. Dieu aime les pécheurs aussi, par exemple. Il est mort pour eux, à la croix. Il leur offre son salut. Il les appelle à se détourner des œuvres mortes. Et ce matin, Dieu nous appelle encore dans notre vie chrétienne à nous repentir des œuvres mortes, à nous repentir de ce qu'on fait avec le but de... Ce matin, le temps commence, Dieu était pleinement satisfait en lui-même. La Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, étaient parfaitement satisfaits en eux-mêmes. Et Dieu est un Dieu créateur, ça fait partie d'un de ses attributs. Dieu crée afin de démontrer qui il est. Dieu est show-off, il aime créer afin de démontrer des parcelles de lui-même. Et Dieu a créé l'homme afin qu'on reflète un peu plus qui il est à travers son pardon, sa grâce, son amour et tout ça. Mais réalisons-nous qu'à travers ce salut-là, on est appelé à être entièrement nous-mêmes satisfaits de la personne de Dieu. Donc au ciel, ce que chacun d'entre vous, j'espère, vous attendez d'être au ciel avec Dieu, l'objectif premier est que rendu au ciel, vous allez vous satisfaire pleinement de la personne de Dieu, de Jésus, de l'Esprit-Saint en vous. Et vous allez pouvoir entrer dans cette réalité-là qui satisfait vraiment votre âme. Vous savez, C.S. Lewis a dit, « Si je passe ma vie à chercher la satisfaction dans des choses du monde, que je les pourchasse avec toute ma force, mais que jamais je n'en trouve la satisfaction, c'est probablement que j'ai été créé pour un but qui ne se satisfait pas sur terre. » Et on est tous bons pour courir sur terre. Et la parole de Dieu nous appelle à fixer nos yeux sur les choses éternelles. Dans sa sagesse, Dieu a décrété, Dieu a mis l'arbre dans le jardin, sachant très bien que l'homme allait tomber, sachant très bien qu'on allait croire les mensonges du diable, sachant très bien qu'on était un petit peu tonton, niaiseux, excusez, et qu'on allait littéralement tomber, qu'on allait manquer notre coup. Et ça lui permettrait de nous montrer son amour, sa grâce, sa suffisance. La mort est entrée afin que chacun d'entre nous ayons accès à la mort de Christ, afin d'être sauvés. Et la parole de Dieu nous dit que le chrétien attend sans crainte la mort. Parce que c'est une délivrance. Plus de péché. La lutte avec votre chair est terminée. Plus aucune larme. Aucune tristesse. Plus d'anxiété qui vous garde réveillé la nuit. Plus de mal de genoux. Plus de mal de dos. La présence de Jésus éternellement avec vous, pleinement satisfait. Et là, on ne peut pas aller dans la profondeur de comment Dieu nous montre sa grâce en nous laissant vivre des émotions exceptionnelles. Vous savez, il y a une image rapide. Vous savez comment vous vous sentez ou vous vous êtes senti quand vous êtes finalement tombé amoureux? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, là, mais on peut faire 8 heures de voiture, pour aller passer 1 heure avec la personne tant aimée, puis là, on est-tu content, puis ça valait-tu la peine, puis c'est-tu pas merveilleux? 8 heures de voiture pour aller passer 1 heure avec la personne, puis là, tu reviens chez vous, puis t'es comme, ah, ça valait la peine. Et puis là, tu vas prendre une marche, puis là, c'est trop long parce que vous avez parlé, puis là, c'est-tu pas merveilleux, puis là, t'as mal aux pieds, mais c'est pas grave, ça valait la peine. Et ce petit clin d'œil-là, C'est ça qu'on va vivre éternellement, dans le fond. Le fait que de dire que les petits tracas qu'on vit, si on aime vraiment, puis on est vraiment pleinement satisfait, heureux, et on se sent béni émotionnellement ou rempli émotionnellement, eh bien, ces tracas-là, ils passent. Et on est bien, et on est heureux, et la vie est belle, peu importe ce qui arrive. Hein? Aller marcher, puis là, tu marches, la pluie commence à tomber, c'est pas grave, c'est cute dans les films. Puis là, après une couple d'années, quand tu t'en vas marcher, il y a des nuages. Non, on va pas marcher. Non. Laisse faire. Et encore là, cette réalité-là devrait nous déranger. La réalité que Dieu, ultimement, est la seule chose qui va nous satisfaire, devrait nous déranger. On aime tous répondre ou être performant ou être bon. On aime tous apporter nos belles choses ou avoir l'impression qu'on apporte des belles choses à Dieu. Mais on doit être conscient, chacun d'entre nous personnellement, qu'on a besoin de Jésus. Et vous savez, Jésus, quand il s'est présenté sur terre, il ne s'est pas promené puis dire à tout le monde, « Ouais, c'est moi le Messie, c'est moi Dieu, c'est moi, croyez en moi, croyez en moi. » Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a fait les œuvres de Dieu afin de briser les orgueilleux, afin de démontrer le vrai cœur de l'homme. Vous savez, les maîtres de la loi, ils aimaient bien poser des questions à Jésus, hein? Je trouvais ça le fun d'essayer de le poigner puis de le piéger. Mais Jésus a toujours poussé, toujours répondu, il a toujours poussé les pharisiens et les gens qui venaient le voir à regarder leur propre cœur, leur besoin de Dieu. Et aussi, Jésus les a confrontés dans une réalité. Si vous allez dans Ésaïe 43, versets 22 à 26, on voit que Dieu appelle et rappelle au peuple, « C'est moi et seulement moi, dit l'Éternel, qui pardonne tes péchés, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. » Donc Dieu nous sauve et efface nos transgressions pour son amour. « Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. » Dieu appelle l'homme dans Ésaïe 43 à venir. « Viens, on va jaser. Justifie-toi. » Mais Dieu, juste avant, il lui dit, « C'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Et Jésus, si vous allez dans Matthieu 9, au chapitre 6, devant la foule, quand on lui amène un paralytique, et là, il demande aux pharisiens, « Est-il bien de guérir une journée de sabbat? » Et là, Jésus dit au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés. » Et là, tout le monde panique. Oh, Jésus pardonne les péchés. Là, il voulait le lapider. Et là, Jésus a simplement dit, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Parce que Jésus a dit, c'est quoi le plus facile, gang? Guérir quelqu'un qui est paraplégique, paralytique, qui ne peut pas marcher depuis 14 ans, ou de dire, tes péchés sont pardonnés. Et là, si vous êtes moindrement vite, vous allez réaliser que les deux sont impossibles. Et Jésus a fait les deux. Jésus a dit, afin que vous sachiez. Donc, il n'a pas répété « tes péchés sont pardonnés ». Il devait avoir des roches puis être comme intimidant. Mais Jésus, ça ne le dérangeait pas. Il dit « les deux sont impossibles, mais afin que vous sachiez que je suis Dieu, va, prends ton lit, va dans ta maison. » Et le gars s'est levé, pris son lit et est allé dans sa maison. Probablement la première fois de sa vie qu'il marche en plus. Là. Vous avez déjà vu un bébé qui essaie de marcher pour la première fois? C'est quand même pas... Hein? Mais lui s'est levé, parfaitement guéri, parfaitement amené à être capable, et il est parti. Donc, Jésus, ultimement, dans son amour, dans sa sagesse, a démontré qu'il était notre besoin primaire. Donc ça, c'est la sagesse de Dieu et ça dérange, ça devrait déranger. Et si on vit, si tu vis personnellement avec des convictions comme ça, si dans ta vie, tu as la conviction que Jésus est Dieu, que c'est seulement par le salut que Jésus nous a gagnés à la croix, que Jésus a conquis la mort et que tu mets vraiment tous tes œufs dans le même panier, tu crois vraiment, et il n'y a aucune autre façon d'avoir la vie éternelle en Christ. Il n'y a aucune façon d'avoir tes péchés pardonnés. Si tu crois vraiment, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Parce que la sagesse de Dieu ne te laissera pas oisif. La sagesse de Dieu ne te laissera pas t'égarer, te perdre. Est-ce que tu aimes assez cette vérité-là pour en parler à tout le monde? Est-ce que tu l'aimes assez pour avoir l'air d'un fou, pour te faire traiter d'innocent? Est-ce que tu l'aimes assez pour, même en shakant dans tes bottines, en parler aux gens que t'aimes? Parce que vous savez, c'est la seule vérité qui peut vraiment sauver quelqu'un. Si j'aime mon voisin, moi le premier, je vais prendre les portes. Et là, je ne vous dis pas de partir tantôt sous la pluie, pas de parapluie, cogner sur toutes les portes. Ça pourrait être faisable, mais... Vous comprenez, c'est que on a besoin, parfois, de se motiver de la bonne façon. Et la sagesse de Dieu nous amène vraiment... Quand j'aime vraiment quelque chose, j'en parle. Hein? Combien de personnes me parlent constamment du Canadien de Montréal? Je les aime bien, là, mais... Combien de personnes vous parlent du dernier film qu'ils ont vu? Dernière game de hockey, nouveau tracteur, nouveau char, nouveau... Et là, on est content d'en parler. Mais la parole de Dieu... Ouais. Bon, le dimanche. Le dimanche, pas de trouble. À Pâques, des fois. À Noël, oui, pourquoi pas. L'action de grâce, peut-être. Une fois de temps en temps, quand je vais manger à une place que je ne connais pas, je dis « Merci Seigneur pour la bouffe. » Mais l'appel ce matin, c'est que la sagesse de Dieu devrait nous déranger. Est-ce qu'on est rendu indifférent à la grâce de Dieu? Moi, le premier. Vous savez, parfois, je suis fatigué, ça ne me tente pas. Et puis là, il y a quelqu'un qui dit une phrase. Et je me dis, « Oh, c'est une porte, ça, Seigneur. » Là, je regarde un peu. « Est-ce quelqu'un d'autre que moi qui pourrait parler? » Non, OK. Est-ce que j'aime vraiment cette personne-là? Est-ce que je suis conscient de sa valeur qui reflète la personne de Dieu? Et le but ce matin, c'est pas de faire un genre de power trip de culpabilité, là. C'est que c'est une question qu'une fois de temps en temps, on est appelé à se questionner. L'Évangile, Dieu, lui, il avait pas honte. Il n'y avait pas de problème à nous mettre où on est. Dieu n'a pas de problème, il n'a pas besoin de mots pour le défendre, là. Mais il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Vous avez la grâce, personnellement, chacun d'entre vous, de partager ce que Dieu a fait pour vous. Si Dieu a fait quelque chose pour vous. C'est un combat extrêmement difficile, extrêmement sérieux. Parce que chaque fois qu'on ouvre la bouche en tant que chrétien, on est vraiment en train de lancer des flèches contre Satan. On lui rappelle qu'il a perdu, que lui n'est pas semblable à Dieu, que lui est seulement, même s'il est extrêmement puissant, puis qu'en ce moment, c'est lui qui peut nous faire bien, bien mal, ultimement, on a gagné. On a gagné, on est en Christ, on est sauvé, plus de péché, plus de condamnation. Est-ce que vous n'êtes pas en train de, comme moi, triper bien raide, comme dirait un bon Québécois? Êtes-vous heureux de la chose? Êtes-vous content? Êtes-vous pleinement satisfait en Dieu? Est-ce que ça vient vraiment nous motiver? Et j'espère que oui. Et ce matin, si ce n'est pas le cas, ensemble, on peut prier. Et dans la sagesse, si vous allez dans le livre de Salomon, le livre d'Ecclésiaste et dans tous ces livres de sagesse-là, il y a des moments où on est appelé à en parler. Hein? Mieux vaut l'homme qui va dans une maison de deuil que dans la maison de joie, car c'est là la fin de tout homme. Il dit aussi, au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Dieu fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Dieu nous appelle à réfléchir à lui, à tout moment. Dieu nous appelle à parler de lui. Dieu nous appelle à être motivés par son amour, par sa grâce. Proverbe 26, 12. Je l'aime bien, celle-là. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. On a besoin de Dieu. Quand je suis gêné pour ouvrir la bouche parce que je ne me sens pas assez sage, rappelons-nous que Dieu équipe celui qui l'envoie. Paul a écrit la même chose à Timothée dans 2 Timothée 4, 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus qui doit juger les vivants et les morts. Au nom de son apparition, de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Syncrétisme. Ils détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toute chose, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Si on est tombé dans l'apathie, ou si l'évangile a perdu son éclat, ou si la grâce de Dieu est devenue un acquis que je me permets et je me laisse aller à pécher sans retenue, si j'abuse de la grâce de Dieu à tous les jours, j'ai besoin d'être dérangé. J'ai besoin d'être dérangé par la parole de Dieu. J'ai besoin de demander l'aide à Dieu. J'ai besoin d'abandonner mes péchés. Et ce combat-là commence tous les matins et se termine quand on meurt. Si nous sommes tièdes, retournons à notre premier amour. Si ce matin, tu es dérangé par ton état, parle à quelqu'un. Demande de l'aide. Viens prier. Ne reste pas dans le doute. J'inviterai l'équipe de louange, on va prier. Seigneur Jésus, merci pour ton évangile. Merci Seigneur parce que on est complètement dépendant de toi. Par la chute, Seigneur, on a proclamé notre indépendance de toi. Et depuis ce temps, Seigneur, on est complètement conquis par le péché. Et on a besoin de toi, Seigneur, afin de restaurer la relation, de payer le prix pour nos péchés et de nous remplir de toi. Et Seigneur, après plusieurs années de vie chrétienne, parfois on tombe dans une latitude, on tombe apathique, on a de la difficulté. Et Seigneur, ce matin, je te prie qu'on puisse retrouver le zèle de notre salut, que tu puisses nous motiver à avancer pour toi, nous motiver à aimer les autres comme toi tu les aimes, que tu puisses transformer nos cœurs un peu rouillés, un peu ankylosés, Seigneur, que tu puisses nous aider à vraiment partager ton amour pour les gens autour de nous, à ouvrir la bouche quand on en voit l'opportunité et à proclamer qui tu es, Seigneur. Ne pas garder les peurs qu'on a de ne pas en connaître assez ou de ne pas être prêt, Seigneur. Parce que la journée où on va penser être prêt, Seigneur, c'est probablement là qu'on va se prêcher nous-mêmes puis oublier qui tu es. Jésus, bénis ton Saint-Nom dans nos vies. Aide-nous à t'aimer pleinement. Aide-nous à nous accrocher à toi, peu importe ce qui se passe. Jésus, fortifie ton Église afin qu'on puisse être un témoignage vivant. Merci pour tout ce qui se passe. Merci pour ton salut. Merci, Seigneur, parce que c'est encore efficace aujourd'hui et tu sauves encore. Et Jésus, on a besoin de toi et de ta sagesse. ta sagesse qui était présente dans le jardin d'Éden, ta sagesse qui était présente quand on est tombé, quand tu nous as tous condamnés à mourir afin de nous sauver en Christ, quand à travers chacune de nos croix, de nos croyances, Seigneur, à toutes les fois que quelqu'un met sa foi en toi, se repent de ses péchés, Seigneur, tu nous montres encore que tu nous aimes. Chaque conversion est un miracle. Aide-nous à le voir. Aide-nous à travailler pour toi. Seigneur Dieu, bénis. Seigneur, touche, convainc. Et on sait que c'est ton esprit qui nous convainc de péché, de repentance et de notre besoin. Seigneur Dieu, donne-nous de prier pour les gens qu'on aime. Donne-nous d'apprendre à aimer. Donne-nous de nous abandonner. Jésus, parle à tous ceux et celles qui souffrent, tous ceux et celles qui ont des moments de lassitude, qui sont tannés, qui sont peut-être apathiques. Seigneur, touche nos cœurs. On a besoin de toi, besoin de ton salut à chaque jour. Et bénis ton saint nom. Sépare-nous avec ta bénédiction, Seigneur, et que ton nom soit béni. Amen.